Alors, bonsoir à tous. Donc voilà, on va vous parler de Moïse ce soir. Et j'ai bien aimé dans le psaume que Valérie nous a lu que Dieu a fait connaître ses projets à Moïse. C'est comme ça, hein, que c'était tourné, ouais. Et je ne sais pas, quand je vous dis Moïse, quelle image vous vient à l'esprit? Qu'est-ce que ça évoque en vous? Qu'est-ce que vous voyez dans votre imaginaire? Moïse, ça veut dire qu'est-ce qui vient? La couverture, ouais, la couverture de Moïse, ouais, qui était là-dessus, très typique d'ailleurs. Moïse dans son âge avancé avec la barbe, voilà. Et vous, les autres? D'accord, ouais. En tout cas, moi, il me fait toujours, j'ai toujours cette image un peu de ces films monumentaux, hein, des années, je sais pas, 50, 60. Moïse, la traversée du désert, qui fend la mer, qui vient avec ses tablettes, et puis le grand Moïse, qui est dans, voilà, qui est le leader d'Israël. Et puis en fait, j'ai relu un peu, je sais pas pourquoi d'ailleurs, j'ai relu les livres, les cinq premiers livres de la Bible. Hein. C'est un peu la bibliographie quand même de la vie de Moïse. Et je me suis rendu compte, c'est incroyable, c'est fascinant la transformation de cette vie, de ce Moïse, du début, ce qu'il était et ce qu'il est devenu. Enfin voilà, je me dis, mais là, il y a vraiment beaucoup de choses à dire et il y a beaucoup de choses à creuser. Donc voilà, on a intitulé notre message « Les éléments formateurs dans la vie de Moïse ». Et on a donc préparé ça à trois. Et puis je vais donner la parole à Christine qui va vous parler. Donc voilà, donc, juste encore, la vie de Moïse, et on peut vraiment la scinder en trois grandes parties, hein, les 40 premières années en Égypte, 40 années dans le désert de Midian, en tant que berger, hein, et puis 40 ans après, en tant que grand leader, responsable spirituel, législateur d'Israël. Et voilà, nous sommes trois, et on va faire trois parties. Pas exactement comme ça, mais quand même.
Merci beaucoup, c'est pas facile, donc, avec le temps qu'on a, à parler des trois étapes de Moïse et dans 10 minutes pour chacune. Je vais me contenter juste de soulever quelques éléments que j'ai essayé de mettre ensemble. Et moi, je vais vous parler de l'obéissance de Moïse dans sa vocation et sa mission. La première chose peut-être à vous dire, ça ne va pas être une prédication comme d'habitude parce qu'il s'agit des éléments. Je vais poser tout de suite ces éléments et puis peut-être il y aura la conclusion. Moi, j'ai en préparant ce message, surtout en cherchant ces éléments, je constate que dans le récit d'un buisson ardent, c'est le premier élément. Dieu se révèle à Moïse et lui donne la mission de retourner en Égypte pour demander au Pharaon de laisser partir les enfants d'Israël. Donc, ça, c'est un premier élément. On peut voir cet appel dans Exode 3, verset 7. Où Dieu a dit à Moïse, « J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte et je l'ai entendu crier. » Sous les coups de ses chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. Va maintenant, je t'envoie vers le Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Je me suis dit, avant d'aborder cet élément de l'obéissance, en ayant à l'esprit la discussion de Moïse avec Dieu quand il s'est approché du buisson ardent, je me suis rendu compte que ce n'est pas une simple obéissance. Parce qu'on peut obéir, quand on parle de l'obéissance, on peut peut-être penser que Moïse a dit oui tout de suite. Mais si on regarde ce qui se trouve dans ce chapitre 3 de l'Exode, là, je me suis posé la question, est-ce que Moïse a obéi? Simplement, ça a été une obéissance ou une contrainte. C'est ce que je vais essayer de vous partager pour comprendre cet élément d'obéissance. Alors, mon ordinateur n'a pas voulu m'imprimer mes notes, je vais galérer un peu. Je dirais que pour définir cette obéissance, comme n'est pas une obéissance simple, Moïse a difficilement accepté sa mission en donnant divers prétextes. Ça, vous le savez. Par exemple, il évoquait une question de manque d'estime en lui-même. Par exemple, au verset 11 du chapitre 3, il dit « Qui suis-je pour aller vers le Pharaon et faire sortir d'Égypte les fils d'Israël ?» Donc ça nous montre qu'il n'a pas dit oui tout de suite. Un autre élément, c'est sa méconnaissance du nom de Dieu qui l'envoie. De nouveau, peut-être que je vais y revenir par rapport à la réponse que Dieu lui donnait à chaque réplique, mais je vais évoquer tout simplement les raisons que Moïse a données à Dieu pour ne pas accepter sa vocation et sa mission. Alors, par exemple, je vais prendre ce verset qui est en Exode 3, 13, où Moïse a dit « Voici, je vais aller vers les fils d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, s'il me dise, quel est son nom ?» Quelle heure dirais-je? Donc, il n'a pas dit oui, parce qu'il a avancé, il a argumenté comme quoi il ne connaît pas le nom de celui qui l'envoie. Un autre élément qui montre que ce n'était pas une obéissance vraiment spontanée, c'est la crainte de ne pas être cru par les anciens d'Israël vers qui Dieu l'envoie avant d'aller voir le Pharaon. Ça, on le voit en Exode 3, verset 16. Donc Moïse répondit, « Mais voilà, ils ne me croiront pas. Ils n'entendront pas ma voix. Ils diront, le Seigneur ne t'est pas apparu. » Donc c'est en Exode 4, verset 1. Un autre argument que Moïse avance pour ne pas dire oui, Moïse donc refuse sa mission car il dit qu'il n'est pas doué pour la parole. Donc, c'est un autre argument qu'il a avancé, vous le savez. Moïse dit au Seigneur, « Je t'en prie, Seigneur, je ne suis pas doué pour la parole, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur. J'ai la bouche lourde et la langue lourde. » Peut-être que j'ai utilisé la version Taub comme ça, peut-être que c'est un peu particulier par rapport à la version. Mais c'est vraiment, c'est cette argumentation, l'argument que Moïse a donné à Dieu pour ne pas aller accomplir sa mission. Un autre argument qui est le dernier, Moïse persiste dans son refus de retourner en Égypte. Il dit, « Je t'en prie, Seigneur, envoie-le dire par qui tu voudras. » Donc, tous ces éléments-là, ça montre qu'avant de parler de l'obéissance de Moïse, oui, ça m'est venu comme ça, me disant, est-ce qu'on peut aborder tout de suite la question de l'obéissance et ça, penser à ce que ça n'a pas été tout de suite la réponse de Moïse. Peut-être en évoquant ces éléments aussi, on peut se dire aussi, par rapport à nous-mêmes, peut-être que ça peut arriver si on arrive à entendre avoir cette révélation qui a été, le buisson arde a été déclencheur dans nos vies, d'une manière ou d'une autre, on peut vivre des expériences, peut-être au travers desquelles Dieu peut nous parler, comment nous réagissons vis-à-vis de cet appel ou vocation que Dieu peut nous adresser d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'on peut aussi avoir des arguments. C'est peut-être quelque chose qu'on pourrait tirer comme leçon par rapport à ces éléments. Alors, par rapport à ces éléments que je viens de vous, ces arguments ou ces points, je me suis posé cette question, est-ce qu'on peut blâmer Moïse par son attitude en réponse à l'appel de Dieu? En y pensant, je me suis dit, ou bien je me suis demandé comment il aurait procédé s'il n'avait pas reçu toutes les instructions que Dieu lui a communiquées suite à ces questions et répliques vis-à-vis de Dieu qui l'appelle. Au fond, on peut se dire, mais peut-être que Moïse il était incrédule, mais je pense que c'est son attitude ou sa réponse vis-à-vis de ce que Dieu lui a adressé comme mission, ça lui a permis de recevoir des informations qu'il allait l'aider quand il allait commencer sa mission. Je me suis dit, disons que Dieu lui a dit « va » et que tout de suite Moïse a dit « oui » qu'il est parti. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire par rapport à ce qu'il attendait? Je pense que tout ce qu'il a donné comme argument, ça fait que Dieu lui a donné des informations. Il lui a donné des informations, il a fait même des signes pour lui prouver que c'est lui qui l'envoie. Cela, je vais y arriver, ça lui a permis de comprendre qui l'envoie véritablement, ça l'a accompagné. Je fais vite parce que 10 minutes, ce n'est pas beaucoup. Je vais dire que par rapport à ce que je viens de vous partager, par rapport à l'importance des réponses que Dieu a données à Moïse, aussi des promesses, il y a 4 éléments, je dirais, fondateurs de l'obéissance de Moïse. Voilà, là, c'était pour montrer que ça n'a pas été une simple obéissance, mais en y réfléchissant, j'ai vu qu'il y a quand même 4 éléments au travers de son dialogue avec Dieu. Peut-être que Dieu a considéré chez Moïse pour le choisir. Le premier élément, c'est l'honnêteté de Moïse. Moïse a osé confronter Dieu en lui posant des questions, avouant ses difficultés, ses doutes et sa crainte. Notre point, c'est sa prise de conscience par rapport à sa vocation et sa mission comme résultat de cette confrontation. Et un troisième point, c'est l'acceptation de sa mission comme signe de son obéissance. Le dernier point, c'est son engagement pour l'accomplissement de sa mission, cette mission que je comprends comme l'acceptation ou l'engagement comme signe de sa confiance dans les promesses de Dieu. En guise de conclusion, j'ai parlé de ce qui fonde, avant de parler de ce qui fonde, j'ai montré tout de suite que l'obéissance de Moïse n'a pas été spontanée. Mais le fait que ça n'a pas été spontané, avec les derniers points, les 4 points qu'on a abordés, montre que finalement, Dieu voyait en Moïse un homme sérieux de par son. Donc, l'honnêteté de Moïse allait être utile dans la manière dont il allait cheminer avec Dieu ou Dieu allait l'utiliser. Et puis, sa prise de conscience par rapport à sa vocation et sa mission, je pense que Dieu, peut-être l'auteur de ce récit, a voulu poser cet élément pour montrer que Dieu ne peut pas nous envoyer comme ça. Il voyait en Moïse le fait d'oser l'affronter, être honnête, que ça faisait de lui un personnage dont Dieu il avait besoin pour l'utiliser. Et puis, cela a amené à Moïse à accepter sa mission. Et je dirais que l'obéissance de Moïse est strictement vraiment liée à cette acceptation. Et puis, l'acceptation aussi va de pair avec son engagement pour l'accomplissement de sa mission. Je dirais que ces éléments que je viens de poser ont pu accompagner Moïse depuis qu'il est retourné à l'Égypte et puis la suite de sa mission jusqu'à la fin. Je ne peux pas en dire plus, mais je dirais que ces éléments, c'est vraiment par rapport à la notion de l'obéissance, c'est quelque chose que j'ai pu travailler pour montrer que cette obéissance n'était pas une simple obéissance, mais les éléments que j'ai évoqués en dernier, c'est comme le fondement ou le socle que Dieu a vu à Moïse comme personnage qu'il allait utiliser par rapport à la suite. Merci beaucoup.
Merci. Alors, je crois que Moïse, c'est vraiment un exemple d'obéissance. Et des fois, on se demande, mais comment il a fait pour rester obéissant, qu'est-ce qui l'a motivé pour, comme ça, toujours obéir Dieu, hein, dans des situations des fois déchirantes? Qu'est-ce qui l'a motivé, à ton avis?
Alors, je dirais qu'à chaque réplique, il y avait toujours la réponse de Dieu. Il dit, je ne connais pas ton nom, Dieu lui donnait la réponse, il lui dit qui il est. Il dit, je ne sais pas parler, Dieu lui donne la réponse et je saurai ta bouche. Et jusqu'au moment où il lui dit qu'il enverra un repos pour qu'il puisse travailler avec lui. Je pense que dans son honnêteté, dans son ouverture aux effronter Dieu, a fait qu'il a reçu de Dieu les promesses, même les signes, qui lui a fait comprendre qu'il s'appuyait sur ses promesses et puis Dieu en qui, ou Dieu qui l'envoie, c'est un Dieu digne de sa confiance. Du coup,
on pourrait dire qu'il a puisé sa capacité d'obéir dans sa sa capacité de dialoguer avec Dieu, en fait, d'affronter Dieu, de parler avec Dieu, et que là, il a réussi à trouver la force d'obéir.
C'est pas
juste une obéissance légaliste.
Oui, il y a la notion, vraiment les promesses ont joué un rôle important, et puis les signes que Dieu a fait, par exemple, lui dire si ça te suffit pas. C'est comme s'il lui dit, si ça te suffit pas ce que je t'ai donné comme promesse, t'as quoi à la main? Il dit, j'ai un bateau. Il a dit, j'ai tiré par terre. Donc il a fait les signes, comme son bateau s'est transformé en serpent. Il a vu que c'est quelque chose de puissant. Et puis, par la suite, il a demandé de poser sa main sur ça, je pense que c'est sur sa poitrine. Et puis, c'était un peu couverte de lèpre. Après, il a retourné. Ces signes, c'était comme si Dieu lui prouvait vraiment que c'est Dieu digne de confiance pour qu'il ose partir accomplir sa mission. Je dirais que c'est ça, ça a été ça, son appui. Ouais.
J'ai choisi de parler de la double identité. Une partie de ce que j'ai envie de partager, c'est sur la double identité de Moïse. Et puis, j'aimerais juste vous lire le récit de naissance de Moïse en Exode 2. Verset 1 à 10, on va dire. C'est un petit peu lent, mais ça nous met tout de suite dans l'ambiance. Je trouve que c'est bien de lire, c'est relire ces textes. Et un homme de la maison de Lévi alla et prit une fille de Lévi. Et la femme conçut et enfanta un fils. Et elle vit qu'il était beau. Et elle le cacha 3 mois. Et comme elle ne pouvait plus le cacher, elle prit pour lui un coffret de joncs et l'enduisit de bitume et de poix. Et mit dedans l'enfant et le posa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Et sa sœur se tint à distance pour savoir ce qu'on lui ferait. Et la fille du Pharaon descendit au fleuve pour se laver, et ses jeunes filles se promenaient sur les bords du fleuve, et elle vit le coffret au milieu des roseaux. Et elle envoya sa servante, qui le prit. Et elle l'ouvrit, et vit l'enfant. Et voici, c'était un petit garçon qui pleurait. Et elle eut compassion de lui, et dit, c'est un des enfants des Hébreux. Et sa sœur dit à la fille du Pharaon, irai-je et appellerai-je auprès de toi une nourrice d'entre les Hébreuses, et elle t'allaitera l'enfant? Et la fille du Pharaon lui dit, va. Et la jeune fille alla et appela la mère de l'enfant. Et la fille du Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le pour moi, et je donnerai ton salaire. Et la femme prit l'enfant et l'allaita. Voilà, donc ce récit de naissance de Moïse, qui nous raconte que Moïse, donc, il aurait dû mourir. À la base, c'était un enfant qui est condamné à mort. Il aurait dû mourir pendant cette période. Et mine de rien, sa mère a vu qu'il était beau. Elle a eu ce regard sur Moïse. Il est beau. Et elle a mis une stratégie en place pour le sauver. Le panier a été trouvé et sa sœur, on peut penser que c'était Myriam, sa sœur, en fait, la grande sœur, et qui se tient là, la princesse, j'ai une nourrice. La mère nourrit son enfant jusqu'à ses 3-4 ans, parce que normalement, on nourrissait les enfants assez longtemps, et elle était même payée pour nourrir son enfant, pour s'en occuper. Et là, on voit qu'il y a un truc de fou quand même, c'est très exceptionnel ce qui est arrivé à ce Moïse. Je pense que Dieu, il avait déjà lui aussi avait posé son regard sur Moïse. La mère disait, il est beau, mais Dieu, il voyait le cœur de Moïse, je pense, déjà à ce moment-là. Et donc, voilà, Moïse est parti, il a grandi à la cour du Pharaon. Il a eu toute l'éducation, tout le savoir-faire, les connaissances, l'écriture, savoir se comporter à la cour. Et il aurait pu se couler des journées douces, une vie sans problème matériel, et puis être bien comme ça. Et pourtant, ça ne s'est pas passé comme ça. On sait que dans un accès de zèle et de colère, il a tué l'Égyptien. Il a même enfoui dans le sable. Enfin, c'était assez horrible de faire ça. C'était un meurtrier, Moïse. Sans froid, hein. Il a regardé, est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Il a tué l'Égyptien. Parce qu'il était rempli de zèle et un sens de justice pour son peuple. Et voilà, la suite de l'histoire, vous connaissez aussi. Il a dû fuir pour sauver sa peau. Il a dû fuir. Il est arrivé à Midian, dans le désert. Et là, il a passé 40 ans, peut-être ses meilleures années. Hein. Il a passé dans le désert en tant que berger. Et il a eu des enfants. Un de ses fils s'est appelé Gershon. Et ça veut dire l'étranger, le migrant, l'immigré. Donc, même son fils, il a dû porter cette charge d'être un étranger sur cette terre, ne pas être chez lui. Donc Moïse, il était à Midian, il n'était pas chez lui. En Égypte, il savait qu'il était un enfant d'hébreu, il n'était pas vraiment égyptien. Il était toujours un peu ballotté, pas tellement, pas 100% chez lui. Et pourtant, moi aussi, j'ai une lecture de ce buisson ardent. Hein. Et elle est un peu différente. Et c'est vrai qu'à un moment donné, au bout de ses 40 ans dans le désert, on pense toujours que Dieu il a formé le caractère de Moïse pendant le désert. Et c'est vrai. Mais je pense que la transformation du caractère de Moïse, ça a été toute sa vie. Du début jusqu'à ses 120 ans, jusqu'à la fin. C'était une transformation continuelle. Ça a pris du temps. Cette connaissance de Dieu, d'être tout proche, intime avec Dieu, ça a pris beaucoup de temps. Et ce n'était pas d'un jour à l'autre. Et donc voilà, il y a ce buisson ardent. Dieu lui parle à travers cette manifestation surnaturelle. Et puis, après de courtes présentations, Dieu il va tout droit au but. J'ai besoin de quelqu'un qui délivre mon peuple de l'Égypte. Et je me suis dit, mais ça, c'est le point final de Moïse en Égypte. Ce zèle qu'il a eu de sauver son peuple, de faire quelque chose pour la justice d'Israël, il a fait comme il pouvait. Il était jeune, il avait une force, la passion, donc il a tué cet Égyptien, il a dû partir. Et là, Dieu l'appelle à nouveau pour cette même raison, pour la justice. Il a entendu les pleurs d'Israël. Je pense que Moïse a dû être un truc assez fou pour lui, de se dire, mais Dieu, il veut m'appeler pour ça. C'est pour cette raison que je suis en fait condamnée d'être dans le désert et il doit retourner en Égypte pour ça. Et il n'avait pas très envie de retourner en Égypte. On a vu que dans la tradition juive, on dit que Moïse aurait négocié pendant une semaine avec Dieu. Avec Dieu, il a négocié une semaine. Donc Dieu cherchait quelqu'un qui est fort pour négocier, je pense, avec le pharaon. Donc il a trouvé Moïse et il savait que c'était un homme de négociation. Il était capable de négocier avec Dieu pendant une semaine. C'est pas rien. Donc il avait ce caractère-là. Il avait cette trempe-là. Il avait une tranche quand même, Moïse, pour faire ça. Voilà. Finalement, au bout de toutes ces impossibles, je ne peux pas, parce que je ne peux pas, parce que je ne peux pas. Voilà, peut-être qu'il se trouvait trop vieux, trop fatigué, plus assez compétent, qu'il ne connaissait plus ni la culture égyptienne, ni la culture des Hébreux. Peut-être qu'il avait oublié qui il était. Mais tous ces impossibles, au bout d'un moment, il a pu les poser devant Dieu, ses handicaps, et dire, avec toi, je peux le faire, même si pour moi j'ai des impossibles, mais avec toi je vais pouvoir le faire puisque Dieu lui dit, je suis avec toi. C'est cette parole qu'il a envoyée finalement. Dieu lui dit, mais en fait je serai avec toi. Et voilà, donc tous ces impossibles il a pu les poser. Et ça je trouve assez beau. Ça je trouve assez, ça me parle beaucoup aussi. Et après, donc, il y avait cette question notre identité. Nous aussi, on a la parallèle qu'on peut faire, c'est avec la nouvelle naissance. On doit passer aussi par cette nouvelle naissance, cette rencontre avec Dieu. Et on sait maintenant que Dieu est avec nous. Ça, c'est vraiment quelque chose de très... notre identité, elle est là. On a aussi cette double identité. Moïse, il avait une identité terrestre et il avait cet appel spirituel après la rencontre avec le buisson. Et nous aussi, on a cette double identité. D'une part, on est sur terre et d'autre part, on est les enfants de Dieu, on fait partie de sa famille. Et je pense que Dieu, voilà, il veut travailler avec nous. On est ses collaborateurs, on est son personnel du sol. Et voilà, il veut faire les choses avec nous et non pas en solo. Dieu n'est pas un one-man show. Il pourrait faire tout seul, mais il le fait avec nous. Il aime faire les choses avec nous. Voilà. Et voilà, moi j'ai déjà un petit peu conclu. C'est vrai que nous aussi, on est ces nomades, on est ces voyageurs, ces étrangers sur Terre. La Bible aussi, en Pierre, 1 Pierre 2,11, nous dit aussi qu'on est voyageurs sur terre, on est aussi nomades, on est aussi appelés à quelque part garder en tête qu'on ne va pas rester ici. Notre patrie, elle est au ciel. C'est pas ici qu'on va juste devoir trop s'attacher. Voilà, ça c'était mes réflexions par rapport à Moïse. Son identité double ou triple. Et je sais pas s'il y a des questions maintenant. Oui.
Merci de ton partage par rapport à ce double identité de Moïse. J'aimerais te poser la question aussi, puisque tu viens d'évoquer notre identité à nous, en quoi cette double identité qu'on a terrestre, en tout cas double, notre identité terrestre, je dirais, ça peut être double ou triple, ça dépend de nos parcours, de nos origines. En quoi peut être cette double identité, notre identité terrestre pourrait être utile pour Dieu?
Oui, justement, comme Moïse, il avait besoin de ses compétences, il connaissait la culture égyptienne. Bah, nous aussi, Dieu il nous utilise dans nos domaines, avec nos dons, dans ce que nous aimons aussi faire, dans ce que nous sommes. Je pense que Dieu il aime nous chercher aussi dans ce que nous sommes. Et puis, Moïse, il a même cherché dans sa faille, dans cette blessure qu'il avait avec son passé. Bah, peut-être aussi là, Dieu nous cherche aussi à renouer avec lui. Suzy, est-ce qu'on te donne la parole?
Oui. Donc, Moïse accepte de se mettre en route. Et ce que j'ai choisi comme sujet, c'est de voir la relation de Moïse avec Dieu, spécialement dans les moments de crise, dans les moments difficiles. Il a vraiment fallu choisir, parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais ouais, comment est-ce que cette relation s'est approfondie, puisqu'on parle d'approfondissement? Et j'ai choisi trois crises. La première, c'est l'histoire du veau d'or. Le peuple qui dit, mais qui demande à Aaron, donc Aaron, le frère de Moïse, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Parce que Moïse était sur la montagne, et fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Alors que Dieu venait de dire, il ne faut pas faire de représentation de Dieu. Et Moïse est sur la montagne et Dieu lui dit, Dieu exprime sa colère et lui dit, voilà ce que le peuple a fait. Ils ont fait des veaux d'or. Et Dieu dit, mais je veux détruire ce peuple. Dieu est vraiment en colère. Et il offre à Moïse et lui dit, mais je veux détruire le peuple, mais je recommencerai avec toi. Tu deviendras l'Abraham du peuple. Et Moïse, c'est une tentation, franchement. Il devient le chef suprême de ce peuple. Et Moïse refuse. Mais il est encore sur la montagne. Et ensuite, il descend. Et quand il voit les choses, qu'est-ce qu'il fait? Il a les tables dans la main, il casse les tables, il se rend bien compte que ces tables de la loi qu'il a, c'est un jugement contre le peuple. Il ose casser les tables. Et puis, alors je ne vais pas tout raconter, mais ça le mène à cette sensibilité de se dire, mais Dieu, au milieu du peuple, il ne peut que juger. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une tente et il la met en dehors du camp. Il dresse une tente, la tente de la rencontre, en dehors du camp, pour pouvoir avoir une relation intime avec Dieu. Et je trouve très beau parce que Jésus nous dira, mais va dans ta chambre, entre dans ta chambre, ferme la porte et entre en communion avec moi. Et bien déjà du temps de Moïse, c'était la même chose. Moïse trouve un endroit à part et là, il rencontre son Dieu. Et que dit la Bible? Que nous dit Dieu? Dieu voyait Moïse, ou Moïse voyait Dieu face à face, et il lui parlait comme on parle à un ami. Dans ce moment de crise où Dieu veut détruire tout le monde, juste après, il y a cette relation d'intimité, d'amitié entre Moïse et Dieu. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son mari, à son ami. Et puis, ce que je peux encore dire, c'est que une des caractéristiques de Moïse, c'est que Moïse est un homme qui intercède. Il trouve un moment, un lieu à part pour trouver Dieu, pour avoir cette communion avec Dieu, mais il a un amour intense pour le peuple. Et il va jusqu'à dire, mais si tu veux juger, efface mon nom de ton livre, mais pardonne-leur. Et Dieu lui dira, mais c'est pas toi qui as fait mal. C'est pas toi qui vas être jugé. Mais Moïse va jusque-là. Et on est à Pâques. Hein? On disait, il y a quand même un rapport. Je trouve le rapport entre... Le parallèle entre Moïse et Jésus est très touchant parce que Moïse est prêt à ce qu'on efface son nom du livre de vie pour sauver le peuple. Et évidemment, Dieu refuse. Le deuxième récit, c'est dans Nombre 11, où le peuple en a assez de manger la manne, le pain du ciel. Ce pain du ciel dont on fait des gâteaux, des galettes, et au début ça avait un goût de miel, et puis maintenant ça n'a plus qu'un goût d'huile, on en a marre. Et quand j'ai dit que je voulais parler de ça, Andrea a dit, oh ben je les comprends. Moi aussi j'en aurais eu marre. Pourtant, Moïse, il mangeait tous les jours. On ne voit pas que Moïse se plaigne. Mais le peuple... Mais en tout cas, il est parlé du ramassis du peuple qui se plaignait et qui allait jusqu'à vouloir retourner en Égypte. Le peuple veut trouver un nouveau leader pour retourner en Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils ont envie de manger des légumes et du poisson. C'est quand même... Franchement, il faut le faire. Et Moïse, quand il voit ça, vous savez comment réagit Moïse? Quelle est la réaction de Moïse? Moïse, il est effondré. Moïse, il dit, mais je n'en peux plus. Ce peuple, cette charge du peuple est trop lourde pour moi. Je ne peux pas, à moi tout seul, porter tout ce peuple, car il est trop lourd pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi donc, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. Moïse, cette fois-ci, il n'en peut plus. C'est trop pour lui. Et que fait Dieu ? Bon, Dieu va s'occuper du peuple, hein? Il ne va pas le laisser tranquille, il y aura des jugements. Mais que fait Dieu avec Moïse? Dieu entend Moïse. Dieu mesure le poids qui repose sur les épaules de Moïse. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Moïse, choisi 70 personnes, des hommes qui sont des anciens, qui sont responsables dans le peuple d'Israël, et venaient dans la tente de la rencontre, cette fameuse tente où Moïse rencontrait Dieu régulièrement. Et que fait Dieu ? Et ça, c'est grâce à vous. J'ai dû réfléchir. J'ai toujours trouvé difficile ce passage où il est dit que Dieu prend une partie de l'esprit qui est sur Moïse pour le répandre sur ces 70 personnes. Et je me disais, mais moi, à la place de Moïse, mais je ne serais pas d'accord. Je n'ai pas envie que Dieu monte une partie de l'esprit pour le distribuer à 70 autres. Est-ce qu'il en restera ? Et puis, à force d'y réfléchir, de relire, je me suis dit, mais premièrement, l'esprit, il est infini, il lui en restera bien assez, ce n'est pas un problème. Mais c'est vraiment, moi je trouve très touchant, parce que si vous y réfléchissez, Moïse, il ne peut pas porter le peuple, c'est trop lourd pour lui, eh bien de lui donner un conseil, une équipe de 70 personnes à gérer, j'ai l'impression que c'est lui rajouter une difficulté de plus, à moins que ces 70 personnes aient le même esprit que lui. Ils ont tous le même esprit, ils ont tous la même pensée. C'est un réel soulagement. Et je crois que c'est une invitation pour nous à marcher par l'esprit. Si on marchait tous par l'esprit, il n'y aurait plus de problème. On pourrait se porter les uns les autres, s'encourager les uns les autres. Et Dieu fait le cadeau à Moïse de lui donner 70 personnes. Et il a mesuré la charge. Il en faut 70 pour porter avec lui la charge du pays. Et puis le chapitre suivant, Nombre 12, je voulais le voir dans l'autre sens, puis je me dis non, le sens de Dieu, ça a du sens. Ah ben, si on voit le chapitre suivant, qu'est-ce que c'est ? C'est Aaron et Myriam, le frère et la sœur de Moïse, qui viennent contester l'histoire. Ils ont des problèmes avec la femme de Moïse, et puis ils disent, oui, puis franchement, Dieu, il ne parle pas que par toi, il parle aussi par nous. Écoute, et là, la Bible nous dit, il n'y avait pas plus humble que Moïse. Moïse, on ne voit pas Moïse qui se justifie, qui essaye de les remettre à leur place, ou Moïse qui veut dominer ou non. Moïse, il marche par l'esprit. Je trouve que c'est une bonne réflexion. Moïse, il est là. Il ne dit rien. Mais Dieu entend. Il y a juste ce petit verset où il est dit, et l'Éternel écouta. Il a écouté ce qui se passait. Et l'Éternel convoque, toujours dans l'attente de la rencontre, convoque Moïse, Aaron, Myriam. Et là, je vais vous lire ce que l'Éternel dit à ces trois personnes. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un rêve que je lui parlerai. Ce n'est pas le cas avec mon serviteur Moïse. Il ajoute, il est fidèle dans toute sa maison. Donc sa femme comprise. Hein? Il est fidèle dans toute sa maison. Je lui parle directement. Je me révèle à lui sans énigme. L'appréciation de Dieu pour Moïse. Il met Aaron et Myriam à leur place. Et il montre son appréciation de Moïse. Et puis on retrouve Myriam, on sait, hein, tout d'un coup elle attrape la lèpre. Et Moïse aurait pu dire, bien fait pour elle. Hein. Franchement, elle, au moins c'est clair, elle l'a mérité. Mais non, de nouveau, Moïse intercède. Moïse prie pour Myriam. Et l'Éternel écoute la prière de Moïse. Et il guérit Myriam au bout de ses jours. Et je crois que ça vaut la peine de méditer ces quelques chapitres. Parce que c'est une bonne illustration de la marche par l'Esprit. La marche dans l'humilité, dans l'intercession, dans la patience, et puis dans la communion avec Dieu. Prendre le temps, dans les moments difficiles, dans les moments de conflit, prendre le temps, prendre le recul, commencer par s'adresser à Dieu et puis le laisser faire. C'est ce que j'ai retenu. Et maintenant, pour la mise en pratique dans ma vie, j'ai besoin de vous, parce que c'est ensemble qu'on progresse.
Merci.
Je t'écoute. C'est difficile de poser des questions après.
Des questions après tout ça, oui.
Pour chacune de nous. On ne voulait pas avoir trois prédications qui suivent, on voulait être interactif. Mais franchement, on est limité. C'est pas facile. Mais si tu as une question, c'est volontiers. Christine.
Pourquoi, peut-être ça sort un peu du contexte, mais pourquoi est-ce que Dieu il n'aurait pas choisi Aaron? Il parlait bien, il était là, il était devant, et puis blablabla. Pourquoi il n'aurait pas pu faire ce que Moïse a fait?
Franchement, quand on voit Aaron et le veau d'or, Aaron a les contestations, alors il aurait pu lui donner son esprit, ça l'aurait transformé peut-être.
Hein. Il aurait des chances.
Ça, c'est possible, ça. Heureusement, l'esprit nous transforme, mais la base n'était pas la même.
Il n'avait pas la même carrure.
Il n'avait pas la même carrure et il n'avait pas la même humilité. Et l'humilité, et puis c'est aussi, je pense que ces 40 ans en Madian a transformé Moïse. Une des choses, je vais quand même le dire, ça sort du sujet, mais une des choses qui m'a vraiment frappée, c'est que Moïse avait 80 ans quand on l'a appelé. Moi, je ne les ai pas encore, mais et vraiment, ça m'a travaillé. Moïse avait 80 ans. Non, mais
ça peut nous arriver. Hein.
Alors, quand je le dis, je l'ai dit à une ou deux personnes, puis me dit, oui, mais il vivait beaucoup plus longtemps. Il a vécu jusqu'à 120 ans. Mais l'autre jour, je lisais le psaume. C'est quoi, le psaume 90? Où Moïse, dans le cantique de Moïse, il dit, mais normalement, les hommes, ils meurent à 70 ans et les plus robustes vivent jusqu'à 80 ans. Et c'est Moïse qui l'a dit. Et à 80 ans, Dieu vient le rechercher en Madian et lui dit, sors de ton confort, sors de ta vie équilibrée où tu as trouvé maintenant une vie tranquille, paisible. Et je comprends qu'il ait discuté. Et moi aussi, je discute. J'ai trouvé mon équilibre, mais... Et Dieu nous interpelle chacun. Qu'est-ce qu'on fait de notre vie? Est-ce qu'on est prêt à obéir?
Mais je crois que oui, il faut retenir de ça, que Dieu peut nous appeler à n'importe quel moment de la vie, effectivement. Ouais. Ça peut encore nous arriver. Hein, que... Attention, c'est parce que c'est la retraite que c'est tranquille, c'est pas garanti. Et donc, il faut être prêt. Je pense que il faut être prêt pour des choses peut-être surprenantes ou différentes ou autrement, nouvelles.
Et hier, quelqu'un est venu vers nous, on était à la rive droite, et quelqu'un est venu vers moi puis m'a dit, comment ça va? J'ai dit, ça va bien. Ah, c'est bien la retraite, ça va bien la retraite. J'ai dit oui, oui, mais je pensais à Moïse. Puis il me dit jouis-en, jouis de la retraite. J'ai dit oui, oui, d'accord.
Ouais. En tout cas, voilà ce qu'on a voulu. Oui. T'as une question, oui.
Tu veux. Oui, je disais que il m'était venu que j'avais observé quelque chose en vous entendant à propos de ce qui est formateur et ce qui a été formateur dans la vie de Moïse. Parce que je ne crois pas que vous l'avez soulevé, mais il va loin, Moïse, dans cette espèce de. Comment dire, de marchand, je ne sais pas comment dire ça, mais après le buisson ardent, alors il va jusqu'à dire oui, je n'ai pas la parole facile. Mais à un moment donné, il dit non, envoie quelqu'un d'autre. Et là, il est dit que Dieu se met en colère. Alors, je me dis, je pense que ça a été formateur au moment où il ne veut pas que Dieu élimine le peuple qui a fait le veau d'or. Parce qu'à ce moment-là, il a quand même osé fâcher Dieu. Il l'a vraiment fâché aussi, je veux dire. Où Dieu était déjà énervé, je veux dire, mais j'entends, il a osé quand même à ce moment-là s'opposer. Donc, je pense que voilà, il l'aurait peut-être pas fait s'il n'avait pas vu que on peut aller même jusqu'à fâcher un peu Dieu. Et...
Tu introduis la notion de la grâce, c'est vrai. Quand on a goûté à la grâce et Moïse a goûté à la grâce, on est encourager à faire grâce. La grâce appelle la grâce.
Mais voilà, on a maintenant parcouru un tout petit peu quelques étapes de la vie de Moïse, de ce meurtrier jusqu'à l'homme le plus humble qui est sur terre. Quel parcours, hein ? Et quel appel aussi. Alors, c'est vrai que... Voilà, on ne peut peut-être pas toujours s'identifier avec une vie aussi incroyable. Mais voilà, on a quand même beaucoup de parallèles. Et je pense que voilà, quand on regarde nos vies maintenant en arrière, on a beaucoup de reconnaissance pour les choses qu'on a pu faire et que les choses que Dieu nous a aidés à faire, et gloire à lui. Et peut-être qu'il y a des choses devant nous qu'on se dit, bah, là, il y a encore un chantier. Là, je n'y suis pas toujours tout de suite arrivée. Là, il y a un cours du chemin. Dit encore, la vie, elle peut être longue, hein, jusqu'à 120 ans, ça peut être long. Hein. Donc, on aimerait aussi vous proposer en fait un temps de prière pour ceux qui le souhaitent. C'est pas du tout obligatoire. Et c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'habitude de le faire ici, mais moi j'avais à cœur de le proposer. Donc, ceux qui aimeraient qu'on prie pour eux, pour les encourager dans leur étape de marche, de foi avec le Seigneur, qui souhaiterait un encouragement. Ils peuvent aussi nous dire peut-être en deux, trois mots pourquoi il faut prier. Et voilà, on se tient à disposition avec nous trois, plus Frédéric, plus Stéphane, plus Pierre, qu'on a aussi une équipe d'hommes. donc voilà. Merci pour votre écoute. Et puis, j'aimerais juste. Oui. Ouais. Alors, j'aimerais juste clore en priant. Seigneur, c'est vrai, on est là devant toi. On se rend compte que tu es bon, tu es fidèle. Tu as été tellement bon dans le passé. On a tellement de souvenirs de ton intervention, de ta bonté. Et on te rend gloire, Seigneur, de tout notre cœur. Mais tu vois, nos vies sont pas... c'est des vraies vies. Elles sont en cours, les chantiers en cours. Les choses sont en train de se faire. Seigneur, on a aussi besoin de toi, Seigneur, de ton intervention. Saint-Esprit, on veut vraiment te prier maintenant que tu nous aides, que tu viennes visiter nos failles, que tu viennes visiter nos difficultés aussi, Seigneur, afin qu'on puisse en faire quelque chose, rebondir et aller de l'avant avec toi, Seigneur. Et je te le prie vraiment dans le précieux nom de Jésus. Amen.
Seigneur, j'aimerais aussi te demander Tu vois que bah, peut-être qu'on a une vie tranquille maintenant, mais il y a toujours des crises, un jour ou l'autre. Et j'aimerais te demander qu'on puisse avoir cette... j'allais dire réflexe, mais qu'on puisse venir vers toi et trouver auprès de toi le secours dont on a besoin. Seigneur, on est entouré de gens qui se conduisent mal. Et Seigneur, je te prie qu'on puisse avoir la grâce, comme Pierre en parlait. Seigneur, qu'on soit des intercesseurs de ceux qui prient, de ceux qui ne jugent pas, mais qui prient. Seigneur, viens-nous en aide. Et puis je te prie qu'on soit entouré de gens qui prient pour nous et qui nous aident quand on se conduit mal. Qu'on puisse vraiment se porter les uns les autres pour vivre à ton honneur.